tout le monde. Salut les social boss, comment ça va? On est aujourd'hui avec Hassoun Kamara. Comment ça va, Hassoun?
Ça va et toi, tout va bien?
Super bien. On a décidé de faire un live aujourd'hui. J'avais parlé avec Hassoun dans les derniers jours. J'avais demandé s'il voulait venir sur le groupe pour pouvoir parler d'entrepreneuriat et de confinement et tout ça. Il m'a dit absolument. Ça lui fait plaisir. Hassoun et moi, on a collaboré il y a de cela 2 ans, 3 ans. Il démarrait sa page Facebook. Il avait besoin d'un coup de main et tout ça. À l'époque, tu étais encore joueur, je crois.
Oui. J'étais en période de transition. Ouais.
Période de transition. Et là, tu es maintenant un entrepreneur. Tu es maintenant un analyste. Donc, je t'explique un peu de la façon que ça fonctionne. Super simple. Tu nous parles de toi, ce que tu fais, l'impact qu'a eu le COVID-19 sur ta réalité d'entrepreneur, d'homme, tout ce que ça importe. Et également, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as mis en place pour être capable de pallier à ça et pouvoir te sortir de ce marasme. Donc, je sais que tu as beaucoup de chapeaux. Donc, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, les impacts que ça a eu? Je t'écoute, Hassoun.
C'est un peu ça. Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. Puis, l'entrepreneuriat, je le mets aussi. Je mets aussi le joueur de soccer que j'étais dans le pack, en fait. Donc, quand je jouais, je ne savais pas si l'entraîneur allait me faire jouer. Je ne savais pas dans quel club j'allais jouer. Je ne savais pas combien de temps allait durer ma carrière. Donc, c'est de l'entrepreneuriat à l'état pur aussi. Au service de ma passion, dans un sens, qui est le soccer. Et puis, par la suite, j'ai essayé de diversifier mes activités. Donc, j'ai été reconverti chez TVA Sport, où j'analyse les matchs de soccer chaque week-end. Donc, ça, c'est une des activités principales que j'ai. À côté de ça, j'ai aussi investi dans la restauration avec deux amis en France. On a lancé la première chaîne de restaurants street food africain qui s'appelle Osé. Donc, c'est la volonté de démocratiser la cuisine africaine, mais à travers des mets d'aujourd'hui. Donc, on est free gluten, la viande nourrie au grain élevée en plein air, bio, vegan. Donc, c'est un petit peu la tendance sur laquelle on surfe et sur laquelle on avance. Et puis ici, avec le magazine Victoire qu'on a, on partage en fait notre amour du soccer avec les fans, donc de façon à rencontrer les acteurs et les entrepreneurs au Québec qui ont une passion commune pour le soccer. Donc, ça peut être des restaurateurs, des artisans, des chefs d'entreprise qui ont une passion pour le soccer. Et on va à leur rencontre pour pouvoir discuter de toute l'actualité soccer ici. Donc, je m'appuie là-dessus, sur ce socle, pour faire des conférences. C'est mon activité principale aussi, donc d'être conférencier, de parler finalement de toute cette expérience-là, donc à la fois d'athlète et d'entrepreneur. Et de partager des mots clés, des moments clés, des astuces et des outils pour insuffler du positivisme aux entreprises et de donner des clés pour pouvoir performer mieux dans la performance, mais mieux dans le bien-être pour être à l'aise dans ce qu'on fait et dans ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est à travers ça que je vis aujourd'hui, disons.
Ça fait quand même une vie occupée, mais là, je regarde restaurant, analyste à TVA Sport, conférencier, on s'entend que c'est trois axes qui sont impactés directement par le confinement. Ouais. Fait que là, toi, 12-13 mars, la saison de la NBA a été annulée, après ça, ça a été la MLS qui a suivi, la NHL. Toi, comment tu l'as vécu de ton côté? T'sais, commençons par analyste, je veux dire, il y a un impact significatif. Comment tu as vécu les premiers épisodes du confinement?
Ouais, je l'ai vécu par vague, justement, c'est un petit peu ça, où on a vu les annonces se faire au fur et à mesure. Et ce qui est compliqué, en fait, pour nous, c'est qu'on a vu ce qui se passait. Enfin, moi, je suis français d'origine, donc on a vu ce qui se passait en France, la période de confinement qui se mettait en place. On s'est dit que ça allait vite arriver ici, donc ça a commencé à arriver aussi ici, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis les États-Unis, comme je l'ai dit là, ça arrivait par vague, donc le décalage qui s'est fait aussi. Je dis les États-Unis parce que notre championnat est relié directement à celui des États-Unis, c'est la Major League Soccer aux USA. Et donc on était finalement impacté de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on ne savait pas, on n'avait pas trop d'informations finalement au niveau de la Ligue, qui attendait justement les recommandations de l'OMS. Et puis, on regardait ce qui se passait déjà ici au Québec où c'était pas mal compliqué de gérer les choses, mais on regardait dans la deuxième vague ce qui allait se passer aux États-Unis et de se dire que bah, je crois que la chose la plus difficile à gérer, c'est l'incertitude et de savoir combien de temps va durer cette crise. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on a été informé au jour le jour. Nos activités ont été suspendues. Bien sûr, on ne peut pas commenter de match s'il n'y a pas s'il n'y a pas de match, tout simplement, s'il n'y a pas de public dans le stade. Et du coup, bah, tout a été suspendu. Bah, on est un dommage collatéral dans un sens, c'est-à-dire que bah, on attend de voir ce qui va se passer. Et c'est un petit peu là où on est. Je pense que, comme je l'ai dit, là, la chose la plus difficile, c'est vraiment l'incertitude. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que c'est plus ça qui est difficile à gérer.
Ben, je fais un parallèle avec ça. Tu sais, quand tu dis que tu donnes des conférences puis tu parles de ta carrière d'athlète qui aide en étant entrepreneur, ben, est-ce qu'on peut faire un parallèle un peu avec ça, du fait que quand tu es un athlète, tu es un peu à la merci du coach, tu es un peu à la merci de toi. Je veux dire, si tu es sur le banc, tu es remplaçant, tu es titulaire, ben, mané, tu peux pas perdre le moral, tu peux pas te décourager, mais tu as une notion de pas contrôler rien. Est-ce qu'il y a un parallèle intéressant à faire là-dedans?
Oui, c'est un gros parallèle, justement. Les gens sont étonnés quand, lors des conférences que je donne, je dis toujours qu'un joueur de soccer, un athlète, là, c'est un entrepreneur à l'état pur. C'est un entrepreneur qui se lève pour sa passion, certes, mais comme je l'ai dit, il ne sait pas s'il va être sur le terrain le samedi de par la décision du coach. Il ne sait pas s'il va être blessé dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Il ne sait pas dans quel continent il va jouer, dans quel pays, dans quel continent il va jouer dans quelques années. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. En plus, pour une carrière très courte, hein, en comparaison avec les autres champs d'activité qu'on peut avoir, on sait qu'une carrière de haut niveau, là, c'est en moyenne au soccer 7 ans. 7 ans.
Ça fait plus
Donc,
longtemps que toi.
c'est vraiment compliqué à gérer. Et puis, bah, tu es à la merci c'est très compliqué de pouvoir se projeter. Donc, ce que tu dois faire dans ces moments-là, justement, c'est essayer de te concentrer sur bah, ce que tu peux contrôler, tout simplement. Essayer de rester focus sur ce que toi, tu maîtrises, ton entraînement, le fait de rester sharp pendant la période difficile. Lorsque tu es blessé ou que tu es sur le banc, bah, tout ce que tu maîtrises, c'est toi et ton corps, finalement, et ton mental, surtout de te dire que, bah, écoute, les choses vont arriver, la roue va tourner, il faut que lorsque le moment se présente, bah, je puisse répondre. Et puis, ça te permet de travailler aussi d'autres champs d'activité que tu ne travaillais pas forcément. À toi de progresser justement pour pouvoir te pivoter, pour pouvoir te tourner et te dire que bah, avec la situation actuelle, bah, j'arrive finalement à être le plus efficace et à progresser même dans la crise. Et c'est justement le parallèle que je fais dans mon livre qui s'appelle Saisir sa chance. Ce que je fais, c'est que je raconte à travers mon parcours de joueur de soccer depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, finalement, bah, je fais le parallèle avec ce que vivent les entrepreneurs, l'état d'esprit dans lequel on est et tous ces sentiments d'incertitude, comment essayer de jongler avec. Donc, c'est d'autant plus pertinent en période de crise comme dans laquelle on vit aujourd'hui.
Ah, absolument. Puis, tu sais, c'est. Mais question comme ça, je m'inscris une note. Ta carrière a duré combien de temps? Tu as joué plus que 7 ans.
Oui, je joue plus que 7 ans. Moi, j'ai été pro en 2006. Mon premier contrat, je l'ai commencé en 2006 et j'ai arrêté ma carrière fin 2017. Donc, on a à peu près 12 ans. Ça a été 12 ans non linéaire. Ça a été un parcours de up and down, de coup d'arrêt même. J'ai connu le chômage, moi, en tant que joueur de soccer. Tu sais, quand tu n'as plus du tout de boulot, que tu dois rentrer chez tes parents parce que c'est la réalité des choses là qui est compliquée parce que tu n'as plus de revenus. Bah, c'est sûr que ces moments de crise, j'en ai connu et qui font que bah, tu essayes là encore de rebondir et de pivoter pour pouvoir agrandir et en tout cas allonger ta carrière. Et comme je le dis, moi, c'est souvent, souvent, paradoxalement, là, c'est dans ces périodes de crise qu'on est au meilleur finalement. C'est dans ces périodes de crise qu'on arrive à se révéler, à se remettre en question d'une certaine façon et de se dire que, bah, écoute, la situation, elle est telle qu'elle est, tu la contrôles pas. Tout ce que tu
Non.
peux faire, c'est voir comment tu peux progresser, comment tu peux t'informer. Est-ce que tu peux essayer de prendre plus de contenu, essayer de t'enrichir tout simplement pour pouvoir mieux rebondir et montrer que bah, finalement, cette crise, dans quelques mois, on se dira qu'elle a peut-être été bénéfique finalement et que c'était une sorte de gifle qu'on avait besoin pour pouvoir progresser et sortir de sa zone de confort. Et avancer dans d'autres domaines, qui sait, là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être impactés par la crise. Il va falloir justement s'adapter, il va falloir faire en sorte d'apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir rebondir sur le marché parce que ça va être très très difficile. Là, il y a la crise sanitaire, mais la crise économique et sociale risque d'être très compliquée par la suite.
Ah non, c'est définitif, puis c'est drôle parce que tu fais beaucoup de parallèles entre l'athlète et l'entrepreneur. Puis moi, la première chose qui m'est venue en tête quand tu m'as dit tu as été sur le chômage, tu es retourné chez tes parents, ben tu t'es probablement fait dire par quelqu'un, il faudrait que tu trouves un vrai travail à ça. Tu sais, comme l'entrepreneur travaille, il y a de la difficulté, les finances sont pas là, c'est plus difficile. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais trouve-toi un vrai job, là, tu sais. Et là, toi, en tant que mini PME, de dire, ben, trouve-toi un vrai travail. Arrête de jouer au soccer, puis trouve-toi une vraie carrière. Fait que je trouve ça, le parallèle est encore plus intéressant.
Oui, c'est un terme très important. Ce que tu as dit, c'est très important parce que ça aurait été très, très, très facile pour moi, en fait, à cette époque-là, d'écouter justement l'influence des autres. L'influence des autres qui peut être négative, ou ça peut être tout simplement de la jalousie ou d'être envieux par rapport à la situation dans laquelle tu es, en tout cas. Donc les gens vont un petit peu te freiner. Mais souvent, le plus souvent, paradoxalement, c'est des gens qui t'aiment, qui te freinent et qui te disent, pour ton bien, écoute, prends une carrière qui est plus sage, choisis une voie qui fait que tu vas avoir ton salaire à la fin du mois, tu sais où tu vas être. Et c'est une façon finalement d'essayer de te sécuriser. Mais je dis souvent que cette façon-là, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est le reflet, la perception de la propre peur de l'entourage. C'est-à-dire qu'ils projettent leur propre peur sur toi-même. Et c'est très facile finalement d'y succomber, de se dire, OK, je vais la suivre parce que c'est mon père, parce que c'est ma sœur, parce que c'est ma femme, parce que c'est, tu vois, mais c'est peut-être pas forcément, c'est même sûrement pas la bonne décision. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et on sait qu'on va faire quelque chose par défaut et c'est la pire des choses à faire, je pense. Il faut vraiment s'écouter. Je pense que quand on a une voix et qu'on a envie finalement d'exceller ou d'avancer dans un domaine, faut vraiment, vraiment persévérer parce que des coups, on va en prendre, ça c'est sûr. Je pense que quand on a un parcours, c'est jamais linéaire, c'est toujours semé d'embûches. C'est vraiment très difficile, mais c'est dans ces moments-là finalement qu'il faut avoir le recul nécessaire et de se dire que, écoute, voilà comment je vais affronter ces difficultés. Je prends le recul nécessaire, m'informer, travailler, m'instruire encore plus pour pouvoir être meilleur et pouvoir progresser et passer ce passage-là. Donc j'invite les gens vraiment à prendre du recul sur les choses et de se dire que, tu sais, j'ai souvent cet adage-là, vaut mieux être la seule personne à croire en soi autour d'un parterre de personnes qui vous disent que vous êtes médiocre, vous êtes moyen, tu devrais arrêter, tu devrais te retirer, plutôt que d'avoir 1000 personnes autour de toi qui te disent que t'es le meilleur, t'es la meilleure, et que paradoxalement, il n'y a qu'une personne qui n'y croit pas, c'est toi-même.
Ouais, c'est
Donc
clair.
vraiment, vraiment, l'essence, c'est d'arriver à croire en soi, d'être fort, d'avoir ce socle-là, et de se dire que peu importe les tempêtes, peu importe les perturbations qu'on a autour, s'écouter et faire en sorte d'aller au bout de son cheminement, parce qu'à la fin, ce qui me ferait le plus mal, là, c'est de voir des personnes qui ont vécu la vie d'autres, en fait, qui ont vécu la vie en fonction de la perception d'autres. Et tu sais, souvent, ce que va dire ton père à 20 ans, à 30 ans, ça sera absolument pas ce qu'il va te dire à 50 ans, à 70 ans, en fait. Ce serait même lui qui va venir et qui va te dire, écoute, t'as bien fait de m'écouter, t'as bien fait de pas m'écouter il y a 20 ans parce que j'étais vraiment très con. Voilà. Et qui sera fier, oui, mais c'est vrai, et qui sera fier finalement du parcours que tu auras accompli. Donc à la fin, c'est ça, c'est vraiment d'avoir du recul et de la perception sur la vie, le choix des gens, qui est vraiment relatif à une situation et à un moment donné.
Ah non, c'est clair. Moi, j'appelle ça, moi, j'appelle, tu sais, c'est être sur son X, là, quand tu le sais que c'est la bonne chose à faire et que tu veux, tu sais. Puis j'en parlais ce matin avec une future entrepreneur. Puis je lui disais, tu sais, il y a l'expression qui dit la meilleure façon d'avancer, c'est de brûler le pont derrière, là. Mais souvent, c'est ça, c'est d'arriver puis c'est de dire, regarde, j'ai lâché mon emploi, tout ce que je fais, c'est je me consacre à ça et ça fonctionnera ou ça fonctionnera pas. Puis aussi, le gros avantage qu'on a là-dedans, c'est que, tu sais, quand tu y vas à fond, ben, puis que tu arrives à un stade que tu dis, ben, j'arrête, mais tu arrêtes parce que c'est un fait, c'est pas une influence extérieure, c'est juste. Mais là, je suis arrivé au bout, j'ai fait le tour et je suis convaincu que je ne peux plus en faire plus. Fait que
Exact.
je me retire ou j'arrête ma business. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai une première entreprise de 2006 à 2013. J'ai travaillé pendant 7 ans pour cette entreprise-là. Puis des jours, des nuits, je n'arrêtais pas une seconde. jusqu'au jour où 2013, j'ai fait OK, là, c'est fini. Tu sais, je
suis arrivé.
Encore une fois, parallèle avec le sport, je suis arrivé et j'ai dit OK, je suis au bout. Là, je peux quitter, j'aurai aucun regret. Puis ce que j'ai fait, en réalité, j'ai pris une semi-retraite, donc j'ai arrêté pendant un an, juste à temps pour me ressourcer, me recharger, puis dire « OK, je suis prêt à repartir pour la deuxième étape ». Et Mobux a été créé à partir de ce moment-là. Fait que, mais là, toi, là, concrètement, je veux dire, là, tes conférences, il y a beaucoup de conférences qui ont été annulées. La promotion de ton livre est impactée définitivement. Analyste à TVA, je vais t'avouer, je n'écoute plus du tout la télé. Là. Est-ce que tu es encore analyste ou tout est sur
pause? Oui, je le suis toujours. Je le suis toujours. Du coup, comme je te l'ai dit, on est en suspens. On attend finalement de voir ce que les recommandations de l'OMS pour pouvoir reprendre la saison. Donc, on est à l'affût. On attend au jour le jour ce qui se passe. Et puis, comme tu l'as dit, les conférences ont été suspendues. Ma saison commençait en avril et puis se finissait au mois d'octobre. Et puis, tu sais, c'est un gros montant de revenus aussi là qui était pas mal important qui a été annulé. Mais à la fin, c'est aussi ça. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'apitoie sur mon sort et je me dis « Ah, ça va être compliqué, je peux rien faire, j'arrête. » Ou alors, est-ce qu'on essaie de basculer et de se remettre en question et de se dire « De quelle façon je pourrais faire en sorte de continuer mon activité ?» avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les moyens du bord qu'on aurait, parce que réunir 500 personnes dans une même salle aujourd'hui, ça, c'est compliqué. Donc, j'essaye finalement j'arrive à pivoter, à arriver à donner des conférences à travers le web, à donner des conférences à travers le web, à insuffler finalement ce message aux entreprises à travers, et aux organisations à travers le web, et de finalement... essayer de pallier aux inconvénients qu'il y a en le faisant par Internet. C'est sûr que quand on fait une conférence, il y a l'aspect, réseautage qui est très important par la suite, l'expérience humaine et la chaleur humaine qu'on a qui est difficile à mettre en place. Mais ce que j'essaie de faire finalement pour combler ça, c'est qu'après les conférences, j'offre finalement du coaching individuel ou collectif. Et par petits groupes, finalement, à travers des thèmes qu'on aura choisis et définis, j'offre le service d'insuffler des messages que les personnes ont besoin d'entendre pour performer encore plus dans leur activité. Donc, c'est des moments qu'on n'a pas lors des conférences classiques, j'ai envie de dire, mais on essaye de pivoter et d'arriver à donner l'expérience plus pour que l'expérience de la conférence soit encore plus enrichissante.
Ouais, puis c'est le fun, c'est un des aspects que j'ai vu moi aussi avec... avec le confinement, il y a eu la première barrière où est-ce que les gens ils disaient ouais, ben là on est isolé, on n'est pas capable de parler à personne. Là finalement on a commencé à faire des zooms, des conférences virtuelles, des Facebook Live telles qu'on fait en ce moment. Et là on dirait qu'il y a comme une barrière qui s'est défaite. Les gens ont fait ben c'est quand même efficace, puis on est quand même capable de rejoindre des gens. Et là moi-même ben tu sais avec le programme de subvention du gouvernement, j'ai énormément de demandes, j'ai beaucoup d'entreprises qui veulent être formées puis faire des formations en Zoom, faire du coaching en Zoom, ça devient quand même fort efficace. Ça ne change pas le contact humain, mais ça amène quand même une certaine efficacité qui est le fun. Fait que c'est quand même le fun pour toi. Tu as réussi à pivoter puis dire bon, ben, je suis plus capable de faire des conférences en personne, je peux en faire en visioconférence, puis je peux continuer de faire mon coaching. J'aurais envie de parler de tes restos en France. Je veux dire, tu sais, la France a été impactée, puis la restauration a été impactée. Fait que j'imagine que les deux ensemble, ça doit être un coup dur.
Oui, c'est sûr que c'est compliqué. On a dû fermer les deux, écouter les recommandations du gouvernement français. Donc, on était en suspens là encore. C'est très compliqué parce que la restauration, nous, on loue notre espace. Il y a le bailleur qui veut absolument son loyer. Sauf qu'on ne fait plus de revenus comme on pourrait le faire. L'État nous dit qu'ils vont nous aider et qu'ils vont faire en sorte de pallier à ce manque à gagner. Mais le bailleur, lui, a aussi des charges, finalement. Et le local lui appartient, donc il attend aussi d'être payé. Donc, c'est un petit peu toutes ces discussions, tous ces échanges, toute cette réalité, finalement, du marché qui est difficile à gérer. Mais on essaye, par la communication, à montrer qu'on veut se relever, parce que c'est sûr, là, avec la crise qui s'est passée, c'est pas tous les restaurants qui vont se relever, ça c'est une réalité. Il y a le discours du gouvernement qui dit qu'il va nous aider, mais à la fin, entre le discours et la communication du gouvernement et la réalité des banques qui jouent pas trop le jeu, là, à mes yeux, en France, en tout cas. Je pense que ça va être très très compliqué pour le marché de la restauration. Et donc, on essaye de jongler là-dessus, de trouver des solutions, là encore, de pivoter, de voir comment on peut se réajuster, parce que la volonté, c'est vraiment, vraiment de garder les deux restaurants ouverts. Mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, c'est quelque chose de très compliqué. Et là encore, comme j'ai dit précédemment, la chose la plus compliquée, c'est l'incertitude.
Ouais.
C'est que le gouvernement ne nous donne pas de date concrète. Là encore, ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes ont beaucoup d'incertitudes aussi. Et tu ne sais pas combien de temps ça va durer, tu ne sais pas comment les gens vont réagir aussi à la réouverture. Alors, il y a certains discours qui disent que les gens vont se ruer dans les restos parce qu'ils ont tellement été confinés qu'ils veulent aller voir du monde. Et puis, tu as d'autres discours qui diront que ben non, on va être réticent finalement avec l'expérience qu'on a eue de confinement. Ça veut dire que c'est très dangereux si on se met au contact des gens tout de suite. Donc, peut-être qu'on va rester à la maison. C'est un petit peu tout ça. C'est qu'on essaye de jauger un petit peu. Donc, on va voir comment ça va se passer.
Puis cette réalité-là, elle est propre à tout, là. Tu sais, les conférences, est-ce qu'il va y avoir des attroupements de gens? Est-ce que même si on ouvre le confinement, est-ce que les gens vont vouloir se rassembler 500, 800, 1000 personnes? Même chose pour le sport, c'est-à-dire, demain, il y a des matchs de la MLS qui recommencent au Stade Saputo. Je veux dire, est-ce que les gens vont se lancer et vont aller voir le match? Moi, très sincèrement, moi, j'irai pas. Je veux dire, c'est un système. Puis en plus, malheureusement, avec les nouvelles technologies, je disais, prendre le risque d'aller au stade pour peut-être contracter quelque chose ou rester chez moi sur mon écran géant puis regarder le match tranquille. Je veux dire, fait qu'il va avoir des impacts, va avoir des impacts quand même importants à moyen long terme. Puis c'est drôle parce que je me posais la question avant qu'on se parle, tu sais. J'ai vu sur d'autres chaînes de sport, ben RDS pour pas le nommer, ils diffusent des vieux matchs de hockey, puis ils commentent les vieux matchs, mais est-ce qu'il y aurait possibilité que Assun Camara analyse un vieux match de Assun Camara?
Ce serait pas mal, ça. Moi qui ai du mal à me regarder jouer au soccer, là, j'ai dû voir 5 matchs de soccer de ma vie là où j'y jouais là, c'était pas plus là. Mais tout ça pour te, oui, c'est, écoute, ça peut être. Ce qui est clair là, c'est que les cartes vont changer, là, les choses vont changer. On vivra pas comme avant. On vivra pas comme avant. Il y a des choses qui vont évoluer. Il va y avoir des innovations aussi qui vont apparaître tout simplement. Et il va falloir s'adapter. Donc on va voir comment les choses vont évoluer tout simplement. Ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. C'est que il y aura une certaine réticence à aller dehors naturellement aujourd'hui. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit là encore, là, c'est l'inconnu. On n'en connaît pas assez encore sur cette maladie. C'est pas si on peut l'attraper une fois seulement, si on peut la rattraper, l'avoir une deuxième fois encore. Si on a dit que c'était les enfants qui étaient le plus porteurs, finalement, on a des doutes là-dessus et on ne sait pas, on les emmène à l'école. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Je pense que c'est ce qui fait peur aux gens. Là, il y a la maladie en tant que telle, mais le psychologique est très, 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 très difficile à gérer aussi. Donc, le temps que les choses se remettent en place, je pense qu'il va falloir rester très souple, être très flexible en tant qu'individu et de se dire que, bah oui, il va falloir s'adapter à la situation. Dans mon cas, à la télé et les conférences, il va falloir que j'innove, que je sois encore plus présent sur le web, que ma façon finalement de démarcher, tu sais, je suis très soft skills, moi je suis très connecté avec les gens, discuter avec les gens et c'est comme ça que mes affaires se font naturellement, en fait, de par ma présentation et le fait d'être. Là, il va falloir continuer ça et en même temps avoir une présence encore plus importante sur le web et se présenter parce que la concurrence, elle est là aussi. Il y a beaucoup,
C'est
beaucoup de
clair.
conférenciers, d'analystes aussi, mais dans ce milieu-là, c'est comme ça que ça va marcher. Il va falloir que je m'adapte à la situation. Sans ça, tu peux pas rester chez toi, t'asseoir et te dire, bah, ok, j'accepte les choses et puis je bouge pas. Et non, c'est une perpétuelle remise en question. Et à la fin, l'entrepreneuriat, c'est ça. On sait qu'il n'y a absolument rien de garanti. On sait qu'il y a toujours des choses compliquées. Là, on ne l'avait pas vu arriver, celui-là, mais à la fin, faut faire avec. Il va falloir gérer ça parce qu'on n'a pas le choix si on veut avancer.
Ben, tu vois, moi, je suis dans une fenêtre d'opportunité incroyable parce que moi, je travaille en marketing numérique, je travaille dans le web, je travaille dans les médias sociaux. Et là, il y a une explosion. Il n'y a jamais eu autant de monde sur les médias sociaux à consulter du contenu. Mais à l'inverse, il n'y a jamais eu autant d'offres. Il y a tellement de gens, tu sais, comme tu dis, des conférenciers, des coachs, des consultants. Il y en a. Moi, les recommandations que je fais à tous les entrepreneurs, c'est si tu es en action, si tu as du contenu, si tu es tel que je suis en ce moment, c'est-à-dire propage-le le plus possible sur le web pour en faire profiter les gens. Et de l'autre côté, si jamais tu es dans une situation où est-ce que tu n'as pas nécessairement de contenu, exemple un restaurant qui est fermé, très dur d'avoir du contenu de façon régulière, mais c'est-à-dire prépare ton plan de reprise, prépare ton plan de relance parce qu'un jour, le confinement va se terminer.
Ouais.
Plutôt que tard, là, ça commence et on verra les impacts que ça va avoir. Mais de prendre ce temps-là, puis tu l'as dit tantôt, de dire, tu es assis sur le banc, t'es pas un titulaire, il y a des aspects que tu peux travailler, que tu n'as pas le temps de travailler lorsque tu joues, c'est un peu la même chose. De dire, ton entreprise, elle roule, tu n'as pas le temps de travailler sur ton administration, ta comptabilité, ta prévision.
Exact.
Mais là, tu as l'opportunité. Je dis opportunité parce que c'est à toi de voir ça comme une opportunité.
C'en est une. Ouais.
Exactement, il faut travailler là-dessus. Merci beaucoup, Hassan. Je termine avec trois petites questions que je pose à tous mes invités.
Allez.
C'est la première question, super simple. De dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir un seul média social pour le restant de tes jours. Lequel choisis-tu et pourquoi?
Un seul réseau social. Alors, je dirais Instagram.
OK.
Je dirais Instagram parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le média c'est le réseau qui me permet d'allier à la fois le travail et l'amusement à travers la photo et les discours et ce que je vois en termes de contenu. Je trouve que c'est le parfait équilibre finalement pour avoir les deux. Donc, je me plairais bien là-dedans. Voilà,
okay.
Ça me permettrait de travailler et de m'amuser en même temps.
OK. Fait que tu ferais un compromis des deux pour pouvoir avoir tout sur la même plateforme. J'aime ça. Deuxième question. Recommandation de livre ou de podcast pour nos entrepreneurs ici?
Recommandation de livre, oui. J'irai avec Sapiens. Ouais. C'est un livre. C'est un livre. Tu sais, quand tu me parlais d'entrepreneur, justement, c'est un petit peu ça. Avec la crise actuelle, on va repenser à notre façon d'entreprendre et à notre façon finalement d'être aussi. C'est-à-dire qu'on ne va plus dissocier les deux. On ne va plus être à la maison, aller au travail. Il va falloir finalement allier les deux et encore plus mettre de l'humain dans la façon d'entreprendre. Je dis ça pourquoi ? Parce que ce livre, Sapiens, justement, remet en question pas mal de choses, remet en question pas mal de, tu sais, l'évolution. On parlait ça parle justement de la révolution agricole jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et c'est vrai que ça nous remet en question sur notre façon dont on a travaillé, dont on a consommé. Je donnais l'exemple de la révolution agricole. C'est sûr que ça nous a permis une abondance en termes de choix, en termes de qualité de vie, mais à quel prix ? À quel prix on a fait ça ? À travers la pollution, à travers le fait finalement d'avoir des choses qu'on fait 8 fois le tour du monde pour nourrir des bêtes alors qu'on peut les nourrir à la maison. Tu sais, il y a pas mal de choses qui m'ont fait réfléchir et qui me font dire que si je devais recommander un livre, ce serait celui-ci parce qu'il met pas mal de réflexions en place et c'est un livre super.
Eh bien, bien évidemment, on pourrait recommander aussi « Saisir sa chance », qui est un bon livre.
« Saisir sa votre chance », oui. Voilà, je le glisse.
Et dernière question avant de terminer. Hassan, ma vie est en danger et je dois te rejoindre. En courriel, message texte, je t'appelle, WhatsApp, DM, Instagram, Facebook Messenger ou malheureusement, tu ne peux rien pour moi.
J'essaierai toujours quelque chose pour toi. je dirais texto, je suis très texto, c'est plus compliqué pour moi de... Tu sais, je ne suis pas un fan du téléphone. Moi, je suis même sincèrement, je crois que j'ai une maladie. Là. Je suis très anxiogène, là. J'ai du mal à téléphoner tout le temps, j'ai du mal avec ça. C'est soit je vois les gens directement et je connecte et c'est la façon la plus belle pour moi de connecter avec les gens. Ou alors, ouais, un simple message texte, on fait en sorte de se voir, on discute, on échange, et puis là, j'interviens. Mais c'est vrai que ouais, téléphone, etc., c'est un petit peu compliqué pour moi, disons. Donc oui,
Oui.
texte-moi. Si tu es en danger, tu me textes, et puis je fais en sorte d'arriver pour venir te sauver.
C'est drôle parce que la majorité des conférenciers avec qui j'ai parlé ont tous sensiblement le même symptôme au niveau du téléphone.
Ouais, on est d'accord.
Il y a même quelqu'un qui a dit, quand tu m'appelles, j'ai le sentiment que tu envahis ma vie privée. Mais tu sais, on est rendu là de dire, on se texte tout ça qui est plus. On peut répondre quand on veut. Parce que, tu sais, l'exemple
Exact.
qu'on a là, c'est pendant qu'on est en train de discuter, il y a des gens qui peuvent nous texter, mais s'ils nous
Ouais.
appellent, il y a comme une interruption qui est instantanée, puis on est rendu trop occupé. Est-ce qu'on l'est autant qu'avant et tout ça? C'est une question à se poser.
C'est vrai, on est rendu, moi je suis un old school, moi si tu veux. Ça a été tellement vite dans l'évolution là, où avant on envoyait des lettres, tout simplement. On avait un mois pour répondre avec et prendre le temps d'écrire pour avoir une certaine sensibilité. Alors qu'aujourd'hui, bah, on t'appelle, il faut répondre tout de suite, on t'envoie un message, il faut répondre tout de suite. Tu sais, ça a été un petit peu trop vite pour moi, disons là. Donc voilà, moi je suis resté un peu old school. Et puis je prends le temps, je reçois un message, je prends le temps de répondre, mais je mets un petit peu de temps à répondre, c'est vrai.
Parfait. Hassoun, merci beaucoup. Super gentil
Merci,
d'avoir
hein,
pris le
merci.
temps.
Un
Et
plaisir.
je te souhaite que le meilleur et on a hâte que ça recommence, tout ce soccer-là.
C'est gentil. Merci, merci, à très
Merci
bientôt.
beaucoup, Hassoun.
Merci.